Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau podcast sur le roman de Pierre Rabhi et Juliette Duquesne, Vivre mieux sans croissance. Ensemble, Pierre Rabhi, philosophe, et Juliette Duquesne, journaliste, ont eu l'idée de réaliser des carnets d'alerte sur des thématiques capitales et globales dont les conséquences peuvent être graves pour l'humanité. La faim dans le monde, les OGM, la place de la finance, tant de sujets qui nous concernent tous et dont Pierre Rabhi et Juliette Duquesne se sont mis au défi de nous faire comprendre les enjeux à travers cette collection. Dans Vivre mieux sans croissance, les auteurs décryptent le phénomène de la croissance, élément que beaucoup de nos leaders actuels estiment crucial dans notre société capitaliste. Hélas, c'est dans une course sans fin que l'homme s'engage en recherchant le toujours plus. L'avidité est devenue la plus grande des raisons d'être de ce bipède, si étrange à lui-même qu'il pense que l'accumulation viendra à bout de son angoisse de la mort, nous indique Pierre Rabhi dès l'introduction du roman. Dans un monde de surexploitation des ressources, où la biodiversité s'émenuise et le dérèglement climatique s'accentue par faute de l'homme qui ne pense qu'à consommer davantage, est-il réellement possible de sortir de ces schémas, illusion d'un bonheur jamais atteint? Toutes ces considérations posent la question de savoir si nous n'existons que pour la croissance économique en renonçant à toutes les gratuités que nous offre la vie. En effet, le temps devenu argent implique souvent de renoncer à être pour avoir toujours plus. Pour assurer une transition écologique, Pierre Rabhi, lui, prône la sobriété heureuse. Oui, dit-il, nous pouvons vivre mieux sans croissance. D'autres modes d'existence sont possibles, sans que nous soit pour autant imposée une dictature verte. Pour réaliser ce carnet, Pierre Rabhi et Juliette Duquesne ont interrogé des économistes décroissants, des défenseurs de la croissance verte, mais aussi des sociologues, des politologues, ainsi que des citoyens du monde entier et des entrepreneurs. La première partie traite de la croissance au détriment de l'humain. Les auteurs font tout d'abord le constat que notre société est droguée à la croissance. En effet, celle-ci découle directement du PIB, principal indicateur de notre vie économique. Apparu dans les années 50, c'était alors un indicateur de puissance qui comparait les pays entre eux. Le capitalisme est comme une bicyclette, analyse Paul Ariès, politologue. Si on arrête de pédaler, on tombe. Et il n'y a rien de pire qu'une société fondée sur la croissance comme la nôtre, mais sans croissance. L'obsolescence programmée est également un phénomène important à traiter. Nous consommons actuellement trois fois plus qu'il y a 60 ans, et cela en partie dû à divers stratagèmes mis en place pour inciter à la consommation à outrance. C'est pourquoi plusieurs spécialistes préconisent une réduction de la publicité et un indice de durabilité devrait être obligatoire à partir de cette année sur les produits électroniques et électroménagers. Cependant, au-delà de l'impact de la croissance sur l'humain, celle-ci cause également des torts à la nature. Dès les années 50, l'homme commet des dégâts irréversibles pour la planète. Exploitant de manière abusive les ressources disponibles, plusieurs limites planétaires ont déjà été franchies. Car, comme a dit Edward Buldig, économiste américain, celui qui pense qu'une croissance exponentielle peut continuer pour toujours dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Alors, la croissance verte pourrait-elle être une solution à envisager? Le débat est soulevé avec des économistes et militants de la croissance verte, tous pas forcément du même avis. La consommation de métaux rares indique également qu'il est impossible de faire de la croissance sans abîmer la planète. Même les énergies renouvelables semblent être une solution obsolète car nécessitant aussi des métaux qui se font de plus en plus rares. À partir de ce constat, qu'en est-il de la sobriété heureuse? Pierre Rabhi cite notamment les concepts d'économie circulaire, de recyclage, de low-tech ou encore d'économie de fonctionnalité. Il s'agirait, selon lui, d'apprendre à réduire notre consommation, apprendre à être sobre. Mais attention, envisager ceci, ce n'est pas le choix de la stagnation et du sacrifice, mais plutôt le choix d'une société construite sur d'autres valeurs. Afin de se développer avec équité, il semble primordial que nous, pays riches, soyons guéris du fantasme de la croissance, sans quoi rien ne pourra changer. Chose intéressante cependant, les pays pauvres ne seraient pas forcément les plus malheureux. La preuve, avec le Honduras, pays au PIB par habitant nettement inférieur à la France, mais qui enregistre un taux de bien-être subjectif supérieur. Alors le PIB est-il forcément le plus représentatif de nos jours? Par ailleurs, il existe des pays qui ont réussi le pari de se développer autrement, loin de la croissance et de la consommation. Pierre Rabhi cite ici les exemples du Costa Rica, de la Suède ou encore du Bhoutan, pays qui offrent des exemples uniques de l'expérimentation à l'échelle d'un pays, d'un développement différent, non basé sur la croissance. Pierre Rabhi a d'ailleurs lui-même pris part à des projets en créant des villages écologiques, en Mauritanie notamment. Cela montre qu'il est possible de vivre heureux et autonome dans des conditions difficiles, nous dit-il. Mais alors, comment organiser la sobriété au quotidien? Des exemples concrets apparaissent un peu partout de nos jours, notamment les habitats partagés, qui sont une façon de vivre au quotidien plus sobrement, en respectant l'environnement, en créant plus de liens et moins de surconsommation. Mais également dans le monde de l'entreprise, en cherchant de nouveaux modèles économiques qui ne soient pas axés sur la seule recherche de profit. Entre associations de réformes écologiques et sociales, réduction des inégalités, démocratie plus directe, gestion des communs par l'État, tant d'idées qui démontrent des nombreuses possibilités qui s'offrent à nous pour inventer le monde de demain. Pour conclure, en tant que designer, il est essentiel de nous intéresser aux enjeux contemporains. Comprendre le monde dans lequel nous vivons est la première étape vers une possible amélioration de celui-ci, car c'est cela être un bon designer. Améliorer l'habitabilité du monde pour les habitants à travers des réponses concrètes aux problèmes rencontrés. Pierre Rabhi nous interroge ici sur notre place dans la société. Quel rôle souhaitons-nous adopter ? Celui d'un individu quelconque qui se contente de suivre les diktats du système et de les subir ? Ou au contraire, celui d'un individu conscient de la réalité et tentant de changer son comportement ? Et pourquoi ne pas s'inspirer de la sobriété heureuse pour espérer rendre notre monde meilleur ou du moins moins pire ? De même, souhaitons-nous continuer à vivre dans un monde d'insatisfaits, où le repli de l'individu et le toujours plus occupent une place de choix? Dans tous les cas, la situation est telle qu'il est urgent d'agir, chacun à son échelle. Penser autrement pour réorganiser la société de manière intelligente, telle doit désormais être notre préoccupation à tous. Par ailleurs, il est possible de terminer ce podcast en faisant une ouverture avec le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens intitulé « Comment tout peut s'effondrer ». Les auteurs partagent l'avis de Pierre Rabhi dans le sens où il est à présent évident que notre modèle de société ne pourra perdurer de cette manière tant les crises et les catastrophes s'enchaînent. Cependant, les deux auteurs abordent le sujet sous l'angle de la collapsologie, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que l'effondrement est l'horizon de notre génération, que c'est le début de son avenir. Qu'y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer et à vivre.